Express. Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour. Alors que l'Europe fête ses 50 ans d'existence, Accent d'Europe revient sur ces étapes clés qui ont marqué le continent et notamment l'introduction de la monnaie unique européenne. L'euro rebaptisé Teuro par les Allemands, ce qui veut dire monnaie trop chère, car elle a contribué à la flambée des prix, estime l'homme de la rue, mais elle a aussi permis au pays d'être aujourd'hui le premier exportateur mondial. Au Royaume-Uni, la question de la monnaie unique est moins que jamais à l'ordre du jour, puisque son seul avocat, Tony Blair, quitte le pouvoir cet été. Notre portrait du jour, c'est celui de ce cinéaste russe d'origine azérie, Oleg Safaraliev, revient dans son dernier film sur le conflit du Nagorno-Karabakh. Enfin, nous poursuivrons notre carnet de voyage en Moldavie, cette petite république voisine de la Roumanie, un pays qui compte de nombreuses régions viticoles méconnues. Parmi les grandes dates qui ont marqué l'Europe ces 50 dernières années, on retiendra bien sûr l'introduction de la monnaie unique européenne. C'est d'ailleurs très symboliquement une nouvelle pièce de 2 euros frappée à 83 millions d'exemplaires qui symbolisera entre autres ce 50e anniversaire. En Allemagne, les avis restent très partagés sur les bienfaits de cette révolution monétaire. Certes, l'euro et le marché unique ont pour une bonne part contribué à la bonne santé sur la scène internationale de l'Allemagne, qui reste le premier exportateur mondial, mais les louanges s'arrêteront là. Car du côté de l'homme de la rue, c'est une toute autre histoire. L'euro est désormais appelé le Teuro, c'est-à-dire l'euro trop cher. Quoique démenti par les études statistiques, les consommateurs sont convaincus que la monnaie unique a entraîné une flambée des prix. La nostalgie du Deutschmark à la vie dure, une nostalgie qui, comme nous l'expliquent Johannes Barke et Elisabeth Cadeau de la Deutsche Welle, commence le jour de la disparition de la monnaie nationale, le 1er janvier 2002.
Das ist ein historischer Tag deswegen, weil sich hier für jedermann zum Anfassen zeigt, was europäische Einigung
Nous sommes
ist.
Le 1er janvier 2002. Avec optimisme, le ministre fédéral allemand des Finances, Hans Eichel, donne le coup d'envoi à l'euro. Pour la population allemande, en revanche, la monnaie commune signifie plutôt inquiétude, voire nostalgie. Les Allemands perdent en effet ce jour-là leur Deutschmark bien-aimée. Le Deutschmark qui, depuis 1948, rimait pour les Allemands de l'Ouest avec puissance économique et fierté retrouvée, et qui, pour les Allemands de l'Est, était le grand acquis de la réunification du pays en 1990. Mais très vite, l'euro devient monnaie forte, la deuxième réserve monétaire mondiale, et l'industrie allemande est plutôt satisfaite. Certes, le taux élevé de l'euro par rapport au dollar cause quelques soucis, mais cela n'empêche pas les Allemands de rester champions du monde des exportations. En fait, l'économie allemande a massivement profité du grand marché unique, comme l'explique Manfred Neumann. Il est professeur à l'Institut de l'économie allemande à Bonn, et pour lui, ce succès n'aurait pas été aussi rapide sans l'euro.
Nous ne serions sûrement pas parvenus si rapidement à cette ouverture du marché si nous n'avions pas soutenu la création d'une monnaie commune et affirmé, en tant qu'Allemand, notre désir d'y participer. Vu sous cet angle, l'euro a été une grande avancée.
Malgré ses effets positifs, les Allemands accusent l'euro d'être responsable de la montée des prix.
L'euro a rapproché les citoyens européens les uns des autres. C'est évidemment un pas vers l'avenir. Je pense que nos chances dans l'économie mondiale sont aussi meilleures en tant
Je pense que d'une façon générale, c'est bien que nous ayons une monnaie unique. Ce qui est négatif, et c'est ce qu'on remarque, c'est que tous les prix ont augmenté.
La cherté de la vie causée par l'euro, ce cliché à la vie dure, même si les économistes allemands n'y adhèrent pas. Les gros postes mensuels, comme les loyers ou les assurances, sont restés stables, explique-t-il. Par contre, ce qui a effectivement augmenté, ce sont les prix de tous les jours. Les billets de cinéma, les achats au supermarché, le coiffeur ou la facture du restaurant. Mais au total, ils ne pèsent pas très lourd dans le budget. C'est en tout cas ce qu'explique Johann Hallen, ancien directeur de l'Office des statistiques allemand à Wiesbaden.
Les sentiments sont réels. Il ne s'agit pas de les remettre en question.
Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a une différence entre la perception subjective et la réalité que renvoient les chiffres.
La vérité, c'est que la plupart des augmentations de prix dataient d'avant l'introduction de l'euro, estime Johan Hallen. Les commerçants avaient arrondi par le haut leurs étiquettes pour arriver à un chiffre rond en euros. Des augmentations d'impôts, notamment la TVA, ont contribué à cette hausse. Bref, le Brötchen allemand, le célèbre petit pain du matin, coûte aujourd'hui 10% de plus qu'avant l'euro. Force est de constater que pour de nombreux consommateurs allemands, euro, en allemand euro, rime encore avec teuro, c'est-à-dire vie chère. Manfred Neumann, qui était conseiller de la Bundesbank lors de l'introduction de la monnaie unique, ne peut que constater.
Il semble que le degré d'acceptation n'est pas réellement augmenté, mais on sait d'expérience que lorsque l'on a mauvaise réputation, il faut beaucoup de temps pour faire bouger les choses. Et malheureusement, la population reste sur son premier sentiment.
Néanmoins, 5 ans après l'introduction de l'euro, la confiance s'instaure peu à peu, même si la Bundesbank estime que quelque 14 milliards de Deutsche Mark dorment encore sous les matelas ou dans des bas de laine des particuliers. La plupart des hôtels et des restaurants ont revu leurs étiquettes à la baisse et la Banque centrale veille à la stabilité des prix. Pour les quelques irréductibles nostalgiques, certains magasins et cabines téléphoniques continuent néanmoins d'accepter le Deutsche Mark.
Et du côté des nouveaux pays membres, les situations sont très contrastées, avec d'un côté Chypre qui a voté pour l'adoption de l'euro dès l'année prochaine, de l'autre la Pologne qui envisage seulement pour l'instant un référendum sur la question en 2009. Restent les outsiders de toujours, comme le Royaume-Uni. Le pays est moins que jamais en position pour rejoindre l'euro, car il va devoir compter avec les réticences de son ministre de l'économie, Gordon Brown, tout en perdant son seul soutien de taille, Tony Blair, qui quitte le pouvoir cet été. À Londres, Muriel Delcroix.
Dès son élection à la tête du pays il y a 10 ans, et avant même le passage concret à la monnaie unique, Tony Blair annonçait avec enthousiasme son intention d'organiser au plus vite un référendum sur l'euro. Là, quelques mois plus tard, son ministre des Finances le coupait net dans son élan et annonçait que si par principe le gouvernement était favorable à la monnaie unique, en pratique, l'euro ne serait pas adopté tant que 5 conditions que Gordon Brown avait lui-même établies ne seraient pas remplies, à savoir la convergence des cycles économiques britanniques avec ceux de ses partenaires de l'Euroland, la flexibilité, l'effet sur l'investissement, le secteur financier, l'emploi et la croissance. Or, à chaque tentative de Tony Blair de faire avancer le dossier euro, son chancelier de l'échiquier lui a opposé ses 5 tests de convergence, en définitive très politiques et jamais satisfaits, que ce soit en 2003, 2004 ou 2005, date à laquelle Gordon Brown a fini par renvoyer le passage à la monnaie unique au calende grec. Il faut dire que l'économie britannique a pendant toutes ces années affiché une croissance insolente par rapport à une zone euro en berne. Quant aux conséquences d'une livre trop forte qui rendent si difficiles les affaires des exportateurs et rendent le Royaume-Uni moins attractif pour les investisseurs étrangers, elles ne se font pas encore suffisamment sentir pour retourner l'opinion d'un pays encore massivement opposé à l'euro. C'est d'ailleurs ces réticences tenaces qui ont poussé le gouvernement à reporter d'année en année un référendum, même si encore une fois le vrai bras de fer s'est joué entre le Premier ministre et son chancelier. On a d'ailleurs appris tout récemment que Tony Blair s'était même déclaré prêt à céder plus tôt sa place à Gordon Brown en échange de l'entrée dans l'euro. Mais malgré son désir ardent de passer du 11 au 10 Downing Street, le chancelier aura préféré attendre plutôt que de céder. Une détermination qui laisse peu d'espoir aux europhiles, alors que Tony Blair est désormais sur le point de partir et Gordon Brown sur le point de le remplacer pendant plusieurs années.
Tout n'est pas perdu, non. Tout n'est pas perdu.
Voilà le portrait d'un artiste engagé, même si le cinéaste russe d'origine azérie, Oleg Safaraliev, refuse de prendre parti pour l'un ou l'autre camp. Dans son dernier film, il revient sur une tragédie qui a marqué l'Azerbaïdjan dans les années 80, le conflit du Nagorno-Karabakh, une région enclavée, peuplée en majorité d'Arméniens. Son portrait est signé à Moscou, Virginie Pironon.
Né de parents azéris, exilé au Kazakhstan du temps de l'URSS, Alex Safaraliev a fait ses études à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, avant de devenir professeur d'histoire pendant 10 ans. Toutes ces années, confie-t-il, j'ai toujours rêvé de devenir réalisateur. En 1984, il intègre la prestigieuse école de cinéma de Moscou, le FGIK, où il fait ses premières armes. C'est avec son ami Roustam Ibrahimbekov, scénariste d'origine azérie lui aussi, que l'idée de faire un film sur la tragédie qui a marqué leur pays d'origine prend forme. Prashay Yuzhnigorod, ça peut se traduire par « Pardonne-nous, ville du Sud », évoque la sécession de la région du Nagorno-Karabakh. À ce moment-là, des violences éclatent entre Azéris et Arméniens, des pogroms anti-arméniens feront des centaines de victimes. Aliek Safaraliev se fait le partisan d'un cinéma simple, dit-il. Le film, dont l'action se déroule presque entièrement dans une petite cour d'immeuble, tente de décrire de manière non partisane comment ce conflit et la chute de l'Union soviétique ont touché la vie de citoyens ordinaires. Le personnage principal, Alik, jeune homme d'une vingtaine d'années, s'amuse à jouer les héros quand un homme d'affaires, réfugié politique venu du Nagorno-Karabakh, s'installe dans le même immeuble que lui. Le jazz, mais aussi la musique traditionnelle, sont omniprésents dans le film. Selon le réalisateur, le jazz est utilisé comme un symbole de la liberté. Pour Aliek Safaraliev, Bakou, réputé sous l'URSS pour ses nombreux groupes de musique, reste aujourd'hui une des villes au monde les plus riches musicalement, parce que c'est précisément là que se rencontrent l'Europe et l'Asie.
Il figure désormais en bonne place dans la liste des nuisances citadines. Les pigeons, 80 000 rien qu'à Paris, sont aujourd'hui soupçonnés de véhiculer bon nombre de maladies quand ils ne souillent pas tout simplement le mobilier urbain. Pour éviter les solutions radicales comme l'euthanasie, la municipalité inaugure un pigeonnier qui permettra non seulement de contrôler les naissances, tout en trouvant grâce auprès des associations de protection des animaux. Reportage de Laurent Berthoud.
Depuis 1979, il est totalement interdit de nourrir les oiseaux à Paris afin d'éviter justement de trop grandes concentrations. Mais c'est pour la bonne cause que chaque jour, pendant 3 mois, Brigitte Marquet a eu la tâche officielle d'attirer les pigeons de son quartier vers le nouveau pigeonnier du 11e arrondissement, sorte de petite cabane de jardin perchée sur un pylône à l'entrée d'un parc.
Les pigeons sont granivores, donc c'est du maïs, du blé, des petits pois, des fèves, enfin bon.
Ils ont l'air d'avoir très faim.
Mais ils sont affamés. Ils cherchent de la nourriture désespérément sur les trottoirs étant granivores. Ils ne sont pas cacavores, les pigeons. Voilà. Et j'en garde toujours un peu afin de pouvoir attraper éventuellement un pigeon qui a les pattes en mauvais état et précisément ligoté par des fils. Ce sont des fils de poubelle ou de couture, ou même des cheveux très épais, qui entrent dans leurs pattes, et c'est ce qui est à l'origine des moignons que nous voyons.
Très impliquée dans la défense des pigeons, cette fille de vétérinaire ne se déplace jamais sans sa petite trousse de secours pour soigner, quand elle le peut, les oiseaux blessés aux pattes. L'occasion de rappeler que ces volatiles ne peuvent pas transmettre de maladies à l'homme. Leurs fientes ne peuvent être à l'origine d'épidémies, des déjections qui à l'avenir seront concentrées dans le pigeonnier. Une solution qui va enfin dans le bon sens pour tout le monde, se félicite Brigitte Marquet.
Le pigeonnier, c'est une solution de réconciliation entre les gens qui n'aiment pas les pigeons, ceux qui les aiment, et pour les pigeons eux-mêmes. Disons que les pigeons font leur vidange la nuit, où ils nichent. Donc là, le rôle, c'est qu'ils nichent là, et qu'on puisse aussi supprimer la majorité de leurs œufs. On leur en laisse un petit peu, sinon ils n'auraient aucun intérêt à rester là. Hein. Au passage, il faut dire que les pigeons qui sont bien nourris ont des fentes beaucoup moins corrosives, hein, parce que c'est ce qui fait qu'on ne les aime pas. Hein, voilà.
Même satisfaction du côté des associations de défense des animaux. Stéphane Amar, président de l'association du même nom.
Premièrement, c'est bénéfique parce qu'on peut réduire la population, c'est-à-dire il suffit uniquement de retirer les œufs ou de les secouer lorsqu'ils sont dans le nid. Et ensuite, on n'a plus besoin d'organiser des captures et les tuer dans des conditions horribles. C'est-à-dire qu'on les met dans des caissons, on fait le vide d'air jusqu'à temps que les poumons éclatent. Et ceci peut durer 3 minutes. Même ceux qui n'aiment pas les pigeons, lorsqu'on leur explique effectivement la mise à mort, ils sont horrifiés.
L'installation de pigeonniers marque donc la fin d'une politique aussi cruelle qu'inutile, confirme Thomas Charachon du service de l'écologie urbaine de la ville de Paris.
Des études ont montré que lorsque on capturait des oiseaux sur un site, on constatait que le vide laissé vacant était systématiquement réinvesti par les populations avoisinantes, parce que l'absence de concurrence entre les individus favorise la reproduction. Et on constate un pic démographique au lieu d'avoir une baisse significative de la démographie. Donc ça a un coût pour la collectivité, ça attire la vindicte des associations de protection animale, ce n'est pas une gestion durable et problématique. On obtiendra des résultats uniquement, encore une fois, lorsqu'on maîtrisera correctement la nourriture donc, qui est distribuée sur les voies publiques à leur intention, et puis d'autre part lorsque le bâti parisien sera correctement protégé contre la nidification massive de ces oiseaux.
Paris emboîte donc enfin le pas à d'autres pays européens en installant ce pigeonnier contraceptif, espérant obtenir d'aussi bons résultats que Bruxelles ou Londres.
Oula.
Plaza, c'est un groupe de rock portugais que nous fait découvrir la web radio Europa Vox. On écoute On a Magazine.
D'Europe, Frédéric Lebel.
Et nous poursuivons notre carnet de voyage avec Fabrice Dubessé, un amoureux de la Roumanie qui a poussé le voyage jusqu'à la république voisine de Moldavie. Un pays déserté par les touristes, mais qui recèle de trésors cachés comme ses grandes propriétés viticoles.
La Moldavie est vraiment un pays de tradition viticole, et cela depuis des siècles et des siècles. Pendant l'époque soviétique, ces vins étaient connus à travers tout l'espace soviétique. La Moldavie produit une large gamme de vins, Merlot, Champagne, Pinot, Muscat, etc. Et donc vous avez même également une route du vin en fait qui traverse la plupart des grands domaines viticoles de ce pays. Et ce qui a vraiment d'intéressant et d'assez fascinant, c'est en fait les caves à vin de Krikova et de Miliștimișt qui se situent près de la capitale moldave. Et en fait, par exemple, à Krikova, dans la montagne, vous avez 200 km de galeries qui ont été creusées et dans lesquelles sont entreposées des millions et des millions de bouteilles de vin. Et alors, il faut vous imaginer, vous arrivez là, vous circulez en bus ou en voiture à travers ces galeries. Chaque galerie porte le nom d'une rue, en fait. Par exemple, rue Sauvignon, rue Pinault, etc. C'est vraiment une ville souterraine dans laquelle travaillent des centaines d'ouvriers. Et par exemple, pour le cas de Krikova, la particularité en plus de cette cave, c'est qu'elle abrite une partie de la collection de Göring. Alors, Göring, c'était l'ancien dignitaire nazi, qui était un fin amateur de vin et qui avait en fait rassemblé ou plutôt volé des quatre coins de l'Europe, des grands domaines en fait. Et donc une partie de cette collection est entreposée là. Alors c'est assez impressionnant, vous avez des vieilles bouteilles recouvertes de poussière d'un peu partout en Europe, du vin notamment de France, etc., qui date des années 30 et 40.
Et toutes ces bouteilles appartiennent à qui? Elles sont protégées?
Maintenant elles appartiennent, oui, elles sont protégées. Plus ou moins bien conservées, elles appartiennent en fait à la société qui gère Krikova.
Et au niveau de la consommation courante, cette fois, est-ce qu'on trouve des bons vins à consommer en Moldavie?
Les puristes vous diront que le vin moldave n'est pas ce qu'il y a de mieux en fait, parce qu'il est assez sucré et la conservation n'est pas très bien assurée, c'est-à-dire au niveau des fûts de chêne en fait, ils ne sont pas assez renouvelés souvent en fait. Mais bon, personnellement, moi j'ai beaucoup apprécié le vin moldave.
L'émission a été réalisée par Françoise Grelot avec Luc Danchaud à la mise en onde. Toute l'équipe d'Action d'Europe vous dit à demain.